Bonjour à tous et merci pour l'invitation et de nous donner à voir aussi un peu ce qu'a donné ce programme qu'on suivait de loin, Engagir, et on a hâte de lire plus en détail tout ce qui en ressort. On va vous présenter des résultats d'une recherche qui s'inscrit dans le projet ANR Audipar dont parlait Julien rapidement ce matin. Là, en l'occurrence, deux cas qui ont été étudiés à Bordeaux et à Vaux-en-Velin, deux mobilisations en fait de jeunes qui se sont inscrits dans des centres sociaux. On a étudié un peu l'interaction entre la lutte contre les discriminations et le développement du pouvoir d'agir. Ça a fait ressortir un peu deux synergies opposées. L'une, c'est que finalement, la lutte contre les discriminations est plutôt ressort comme un vecteur de mobilisation des jeunes de quartiers populaires assez fort. Ce faisant de politisation des jeunes qui sont souvent présents dans les activités de loisirs, mais qui sont plus durs à mobiliser sur le long terme sur des activités plus politiques, on va dire. Et donc la lutte contre les discriminations ressort, dans ces deux cas-là en tout cas, comme un vecteur de mobilisation assez puissant. Et par ailleurs, l'autre synergie, on va dire, opposée, qui est plutôt une spirale un peu, cette fois pas vertueuse, mais... Inverse, ouais, pas vicieuse non plus. Donc bref, c'est que la lutte contre les discriminations, c'est une cause qui est particulièrement dure à porter en France dans un contexte colorblind. Là, on parle en fait de discrimination ethno-raciale, pardon. Colorblind, aveugle aux différences de couleur. Pardon, oui, c'était un terme anglais, je suis désolée. Et les discriminations sont plutôt, dans un contexte français, pensées comme un problème moral, individuel, plutôt que comme systémique. Et donc, il est assez dur de promouvoir un cadrage alternatif, qui plus est, porté par des premiers concernés, c'est ce qu'on va voir. Donc, ça a un coût parfois très élevé, et ça conduit souvent à des répressions et à des démobilisations. Dans ce contexte, comment et dans quelle mesure peut-on résister à la démobilisation et au risque de renforcement du stigmate de mobilisation de premiers concernés dans la lutte contre les discriminations? Donc là, on a affaire à deux cas de mobilisation de jeunes contre les discriminations ethno-raciales dans des centres sociaux, avec deux centres sociaux qui conçoivent leur rôle comme devant permettre à ces publics qui se trouvent dans une position structurelle de dominer et même minoriser, non seulement d'accéder à la parole, mais aussi de peser sur le cours des événements à l'échelle nationale. Ce qui implique des répertoires d'actions spécifiques. Je vais revenir très rapidement dessus. Un autre point commun qu'ont ces deux mobilisations, c'est qu'elles se font sous contrainte, notamment au vu du fait qu'elles se font dans le cadre d'un centre social et donc de la dépendance notamment financière vis-à-vis de la CAF et de la municipalité. Alors, par contre, ces deux mobilisations ont comme un des points qui diffère, et puis ce sera peut-être la conclusion que fera Samia dessus, c'est qu'elles ont un différent rapport à la recherche. On va revenir dessus. En fait, la première mobilisation, c'est une mobilisation qu'on a étudiée a posteriori, parce que quand on est arrivé sur le terrain à Lormont, dans l'agglomération bordelaise, la mobilisation avait pris fin du fait des répressions qu'elle avait subies. Alors que l'autre mobilisation, on verra, elle est toujours en cours et elle est née au final un peu grâce au projet de recherche et l'interaction entre Anaïque et Samia, notamment. Cette mobilisation à Lormont, elle naît en 2010 suite à tout un travail que prévoit la directrice de ce centre social sur justement les discriminations. Elle part du fait que suite aux émeutes de 2005, il y avait eu des assises de la jeunesse qui avaient été organisées et rien n'en était vraiment ressorti, et elle voyait que finalement tout revenait quand même pas mal à la question des discriminations ethno-raciales. Et donc c'est elle qui va être une entrepreneuse de cause, mais pas toute seule, aux côtés d'un agent de la DRJSCS, la Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale, DRJSCS, et aussi de l'actuel délégué du préfet, qui, voilà, ce trinôme va être un véritable trinôme entrepreneur de cause sur cette question-là. Et donc, ils vont mener toute une série d'ateliers d'écriture, de slam et de chorégraphie aussi avec les jeunes, où ils imposent quand même ce thème-là. Et les jeunes s'en saisissent et découvrent en fait une communauté de récits. Donc là, ce que dit un membre du collectif, c'est en discutant, on s'est rendu compte que les discriminations que l'on vivait, parce qu'aucun de nous ne connaissait la loi de 2001, que les discriminations qu'on vivait, c'était pas simplement des cas individuels, mais c'était collectif. Quand on nous dit « vous avez les mêmes droits », on nous réveille en fait. Donc là, voilà, il y a eu un premier processus de... On se rend compte qu'en fait, ce qu'on vit au quotidien à l'école, essentiellement, là, c'était des lycéens, ou dans la rue, ou avec la police, voilà, en gros, c'est quelque chose qui est partagé, en fait, qu'on n'avait jamais eu d'occasion de partager ces expériences et de se rendre compte que c'était finalement pas individuel, c'était pas des cas individuels, c'était... On était tous dans cette situation-là et qu'en fait, on avait aussi des droits. Il y avait une loi en 2001 qui interdisait ces discriminations, qui punissait par la loi ces discriminations et qu'il y avait peut-être moyen de lutter contre et qu'on était dans son droit de lutter contre. Donc là, c'est une véritable révélation et il va s'en suivre une réunion hebdomadaire pendant 5 ans, très suivie avec généralement une trentaine de jeunes en moyenne qui seront présents et très investis. Ils vont inviter plusieurs militants et chercheurs de la lutte contre les discriminations ethno-raciales. Et pour se former, s'informer, et ils vont petit à petit décider plusieurs actions, alors notamment un séminaire pour interpeller sur ces questions-là qui va être organisé en 2011. Un petit film en a été fait, mais on peut le voir qu'avec des codes, c'est pas des films qui sont en ligne. Donc on a vu ce film qui nous a été présenté par les membres du collectif qu'on a rencontré à l'époque, où ils avaient vraiment fait une action quand même d'interpellation assez forte, où par exemple ils avaient invité le maire, la commissaire, la préfecture, et qui étaient tous venus, et pour faire rentrer, ils faisaient un contrôle de vigile inversé à l'entrée. Donc le maire s'est fait recaler, il a dû attendre pendant un moment... Enfin bon, voilà, ils avaient mis en scène, ils avaient interpellé la police qui avait répondu. C'était plutôt bien perçu par les institutions à l'époque. Et du coup, ce collectif va petit à petit, faire essaimer et être invité un peu partout. Et notamment lors du congrès de 2013 des centres sociaux, ils vont présenter leur démarche, ce collectif. Et ils vont aussi identifier comme leur action phare le fait de refaire un manuel d'histoire en se disant que finalement, s'ils n'avaient pas conscience que ce problème-là était systémique, c'est parce qu'on leur enseignait pas la vraie histoire des Français et qu'il fallait faire un manuel qui décolonisait l'histoire. Au final, ils vont pas faire un vrai manuel d'histoire parce que c'était un peu trop ambitieux. Ils vont faire un film. Et là, je vais vous montrer rapidement le teaser de ce film.
Tes ancêtres, c'est les Gaulois, toi ?
Hein ?
Tes ancêtres, c'est les Gaulois ?
Je sais pas.
Je sais pas ? Pourquoi ton pays ?
C'est le Congo.
C'est pas la France ?
Non.
Pourquoi ?
T'es pas en France ?
Si, je suis en France.
Il y avait une période au collège où je me sentais pas française. Je me sentais plus marocaine que française.
C'était dans ma tête. Je devais quelque chose à la France. C'était pas normal si j'étais ici, en fait. La France, elle est faite avec des origines et faut faire avec. J'ai autant une histoire française qu'une histoire algérienne, pour moi.
Quand tu n'existes pas dans des livres d'histoire scolaire français, mais c'est comme si toi-même, tu n'existais pas aux yeux de la France.
C'était pas, en fait, l'histoire de France, mais c'était l'histoire en France.
Et la question que je me pose encore actuellement, c'est pourquoi je suis en France ?
Le combat, il arrivera d'en bas, il arrivera pas d'en haut. C'est pas ceux d'en haut, un jour, ils vont se dire « Bon, allez, on va aider les discriminés, on va faire tout pour ce que les discriminations s'arrêtent. » Et je sais que c'est à moi d'agir, et que si je fais pas le premier pas, si je fais pas le premier pas dans la lutte, si je lutte pas, personne ne le fera à ma place.
On va rapidement aussi présenter du coup le cas qu'on met en regard de cette mobilisation-là, qui est la mobilisation Policité, mais après je laisserai Anaïk et Samia aussi revenir plus longuement dessus. C'est donc à Vaux-en-Velin. Donc là, cette fois, ça commence finalement quand VE, quand Vivre Ensemble Égalité se termine. Donc ça se termine à peu près en 2015, année où on a fait le terrain à Lormont avec ma collègue Sandrine Ruy, qui ne pouvait pas venir. En 2015, Anaïk et Samia, elles... lance en fait la démarche Policité, donc dans le cadre un peu de l'ANR d'IPAR, en se disant on va faire une recherche participative avec des jeunes sur la question des discriminations, les former à la recherche pour mener des entretiens sur l'expérience des discriminations, petit à petit en fait il ressort que les jeunes se rendent compte et prennent conscience en faisant ces entretiens que la question qui revient quand même assez fréquemment et sur laquelle il serait plus possible d'agir efficacement, enfin, en tout cas de leur point de vue, c'est la question, la relation avec la police. Et donc, ils vont vraiment documenter cette question de la relation avec la police de la part des habitants de Vaux-en-Velin et notamment des jeunes habitants. Et une idée, enfin, parmi les différentes actions qui ont été menées par Policité depuis, c'est la création d'une bande dessinée. Qui essaye de montrer un peu les points de vue et des jeunes et des policiers et pour essayer de déconstruire les préjugés réciproques et que cette BD soit un support pédagogique destiné aux formations et des forces de l'ordre et utilisé dans les collèges et les lycées. Mais c'est aussi l'organisation de soirées débats avec un médiateur, alors c'était avec Yazid Karfi que ça a été organisé, entre jeunes et policiers. Ça a été l'organisation d'une conférence de consensus. Alors là, on va regarder aussi un petit teaser d'un film qui a été fait sur cette conférence de consensus il y a un an. Et l'intervention dans des conférences et des rencontres au niveau local, national, voire même international. Alors, rapidement, vous allez voir aussi des membres du collectif Policité et un peu une petite description de ce qui s'est passé lors de cette conférence citoyenne de consensus.
Policité, c'est vraiment une recherche-action participative avec des travailleurs sociaux qui se sont associés à des chercheurs à l'école des ingénieurs et des citoyens.
La place des jeunes dans ce projet, c'est un pilier du projet.
On s'entraide comme on peut. Par exemple, moi, je gère la logistique. Il y a ceux qui gèrent les groupes de discussion.
C'est juste incroyable parce que d'être à l'origine de l'organisation d'une conférence de consensus citoyenne, c'est une fierté en fait pour nous.
Ça a permis avec l'ensemble des jeunes, notamment des quartiers difficiles, d'avoir quelques clés de compréhension.
Les relations police-population sont assez médiocres en France comparées au reste de l'Union européenne.
Le citoyen peut vraiment apporter une aide précieuse aux forces de police dans la prévention.
La réponse policière n'est pas la solution unique à une problématique.
Ensuite, ils vont devoir travailler ensemble. Et les propositions qui sont faites dans les deux panels devront être négociées de manière conjointe entre professionnels et citoyens.
Grâce à ce projet, ben, ma mentalité a totalement changé. Maintenant, je vois la police d'un autre œil.
Je pense que il y a une évolution, on se sent considéré.
Il n'y a pas plus enrichissant que ce qu'on vient de vivre pendant ces deux jours. Je trouve ça juste incroyable. On vient de commencer quelque chose et on n'est pas prêt de s'arrêter. On veut être acteur d'un changement.
Alors maintenant, on vous a dépeint un tableau assez plutôt positif, idyllique. Voilà, sympa. Donc maintenant, il est temps de vous montrer la face obscure de ces mobilisations et finalement le destin assez triste de la mobilisation de Vivre Ensemble l'égalité, où pendant qu'ils étaient invités à travers la France et que du coup, ils rencontraient notamment des jeunes d'autres centres sociaux et ils essayaient de les former, les mobiliser, les inciter à s'engager également, ils se sont fait attaquer de différentes manières au niveau local. Et alors notamment, bon, ça a été notamment lié au fait qu'il y a eu un changement du délégué du préfet et que le nouveau délégué du préfet qu'on a rencontré, on a rencontré les deux délégués du préfet, n'a pas été vraiment mis dans la boucle dès le départ. Et du coup, c'est pas mobilisé autant que l'était le premier. Et ça a été pas mal un pivot un peu dans la fin de ce collectif. Parce qu'à un moment, il entend parler de racisme institutionnel Et dans la bouche d'un des jeunes, mais aussi dans la bouche d'un des agents de la DRJSS. Et donc, il va saisir le préfet. Et ça va... Il y a pas mal de choses qui se passent, mais c'est quand même pas mal sur cette question de la discrimination et de comment on qualifie... est-ce qu'on peut parler de racisme institutionnel ou pas en France? Et là, ça va finir par la mutation forcée par la CAF de la directrice du centre social. Et en parallèle, ça se fait aussi dans un contexte où, au sein du centre social, cette mobilisation est fragilisée, non pas parce qu'elle porte sur la question des discriminations ethno-raciales, alors entre autres aussi, hein, parce qu'il y a des salariés, notamment du centre social, qui ont une vision universaliste et qui pensent que c'est pas forcément... il faudrait aussi travailler sur l'égalité homme-femme avant tout. Bon, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de tensions au sein du centre social, au sein des bénévoles et des membres des CA, comme au sein des salariés, sur la place qui est donnée à ces jeunes et du coup plutôt sur la dimension développement du pouvoir d'agir. Voilà, il y a une partie du centre social qui n'accepte pas la mobilisation des premiers concernés et notamment la place qui leur a été faite par la directrice dans le CA du centre social. Elle a voulu totalement renouveler le CA. Elle a voulu aussi inscrire dans le projet du centre social des mots forts, la notion de pouvoir et de combat, notamment. Voilà. Donc il y a des tensions sur justement la place du pouvoir d'agir, la place de mobilisation, d'interpellation, et qui font que ça éclate et que la directrice, à un moment, est lâchée aussi par pas mal de personnes du centre social. Et les accompagnateurs sont accusés du coup de manipulation. Ces jeunes auraient été un peu... on aurait lavé le cerveau de ces jeunes. Tout seuls, ils ne se seraient pas mobilisés sur ces questions-là. Ils n'auraient pas pris de telles positions et de telles paroles. Et alors avec des sombres histoires liées, où on va accuser l'agent de la DRJSS et la directrice d'être en fait des agents infiltrés de telles associations pro-palestiniennes. Bon, voilà, ça, mais on voit que c'est souvent lié en fait. On tisse des liens entre eux. Et donc voilà, ça va être assez démobilisateur pour ces jeunes qui vont prendre ça assez durement, assez vivement. Donc ça a été dur de rencontrer les anciens membres du collectif parce que certains voulaient, c'était vraiment, on est arrivé juste à la fin, donc certains voulaient tourner la page et penser à autre chose. Donc voilà, se pose la question de à quel point en fait il est pertinent d'aller sur ces sujets-là qui à la fois sont très mobilisateurs mais peuvent se révéler très démobilisateurs. Donc ça, c'est à partir de là qu'est partie Policité.
Alors donc à Vouhenvelin, ces tensions et ces interrogations, elles sont aussi très très présente. Enfin, comme l'histoire est en cours et voilà, on peut pas forcément parler de tous les détails, mais l'avantage des acteurs vaudés, c'était qu'ils étaient sensibilisés au risque par l'expérience de Lormont, qui avait circulé dans, je suppose que vous en avez aussi entendu parler, qui avait circulé dans les réseaux de centres sociaux. Et du coup, il s'est vraiment agi pour la coordinatrice du centre social, qu'on ne peut pas trop anonymiser puisqu'elle est là, de vraiment protéger à tout prix et à tout moment les jeunes. On s'est dit qu'une action collective où les acteurs faibles, les maillons faibles, entre guillemets, ne pouvaient pas s'exprimer ou faisaient les frais de l'action, ça ne valait pas la peine. Et elle a essayé de protéger aussi, malgré tout, ses marges de manœuvre. Donc c'est un jeu un peu compliqué, une tension un peu permanente. Et il y a eu beaucoup de discussions autour du cadrage du collectif, comment parler de ces questions-là, et puis des répertoires d'action, comment agir. Et donc voilà, finalement on a opté pour une recherche participative qui, chemin faisant, est devenue aussi une recherche action, parce que les jeunes considéraient que documenter un problème, mieux le comprendre, mieux le connaître, comprendre ses causes et pas agir dessus, ça n'allait pas assez loin. Donc c'est eux vraiment qui ont rajouté cette dimension de recherche action. Mais on s'est dit qu'il fallait être malgré tout prudent. On était pris dans un système d'action locale un peu contraignant. Et du coup, en relisant James Scott sur les armes des faibles, on s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée que de faire de la politique sans en avoir l'air. Et ça a eu une conséquence concrète qui a été qu'on a recadré en fait la question des discriminations ou des violences policières en une question beaucoup plus soft, qui était celle de l'amélioration des rapports police-population, qui en plus avait l'avantage d'être dans l'air du temps avec la réforme de police de sécurité du quotidien qui commençait. Et cette euphémisation du cadrage qu'on nous a au demeurant reproché, je pense que ça a quand même eu beaucoup d'avantages. Et notamment, ça a permis de contourner le déni de l'institution policière à l'égard des questions de déviance, de violence, de contrôle au faciès et de la dimension raciale de ces problèmes-là. Et du coup, ça a permis de tisser des alliances avec l'institution policière. Et comme le dit très bien Samia, elle dit, je ne sais plus si c'était dans un entretien ou une réunion à Roubaix, tant qu'on parlait de discrimination ou de contrôle au faciès, on était blacklisté. Et donc on a décalé en parlant de rapport police-jeune, et là ça passe mieux. Il faut être stratège pour faire avancer la cause. La relation frontale, ça crée du personnage, mais ça ne sert pas à l'intérêt général. Moi, je fais de l'infra-politique. Voilà, et donc, ayant maintenant une sorte de partenariat un peu informel entre des policiers et des jeunes de quartier populaire, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu improbable. Ça a pas mal intéressé des journalistes qu'on peut considérer en fait maintenant comme des acteurs du projet. Et donc on a eu la chance d'avoir des journalistes de l'AFP, de Libération, de Rue 89 qui se sont impliqués dans le projet et qui se sont fait un peu les porte-paroles de cette expérience-là. Et ce qui a quand même, je pense, pas mal permis de légitimer la parole des jeunes en lui donnant une dimension scientifique et une forme de neutralité un peu distanciée ou une sorte de respectabilité, je pense. Alors du coup, oui. Samia, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je prendrai la parole à la fin.
Ok. Du coup, c'est aussi important de regarder qu'est-ce que ces mobilisations produisent, comment est-ce que ça affecte les trajectoires des individus qui y participent, mais aussi au-delà le champ de l'action publique. Alors, une évidence, c'est que ça produit de l'usure et de la démobilisation. C'est absolument incontestable. Et évidemment, le cas de Lormont et du collectif Vivre Ensemble l'égalité, qui s'est fini par un conflit ouvert avec les institutions locales, et c'est vraiment emblématique. Et ce qu'exprime clairement un des jeunes du collectif, qui était au départ un jeune bénévole, qui ensuite a été employé en contrat d'avenir par le centre social pour accompagner le projet, il dit... On a tenté de relancer le projet, mais ça nous a cramé, ça nous a grillé. Et il conclut en disant « Moi, je sais très bien que mon contrat, il se finit en décembre et que jamais je ne retravaillerai dans un centre social. » Voilà, donc c'est quand même des effets, pour le coup, très dystopiques, négatifs. Mais en même temps, ces effets-là ne sont pas les seuls. Tout n'est pas non plus affaire d'atteinte personnelle, de précarisation, de fragilisation. Quand on les interroge, les leaders de ces deux collectifs montrent aussi des formes d'épanouissement à travers leur engagement. Et par exemple, pour ce qui est de Lormont, quelques années après, je ne sais pas quand ça se fait exactement, 2014. Donc, en tout cas, parallèlement ou peu de temps après ces difficultés qu'ils vivent, ils vont finalement retrouver l'énergie de se relancer et créer un nouveau collectif qui s'appelle Émergence 33, donc en marge du centre social, et qui est vraiment une association qui vise la lutte contre les discriminations et le développement du pouvoir d'agir. Il y a aussi un des animateurs qui a été dégagé, qui s'est engagé en politique dans une commune voisine à Pessac, et qui a porté dans cette commune-là la cause de la lutte contre les discriminations, et ça a d'ailleurs été une des délégations sur lesquels il s'est retrouvé. Et c'est vraiment, dans les entretiens, il explique que c'est vraiment cette expérience avec le centre social de Lormont qui a été le moteur de cet engagement en politique et sur cette cause-là spécifiquement. Et au-delà d'ailleurs de Vau-en-Velin et puis de Lormont, quand on regarde toute l'enquête au départ, on peut dire qu'il y a au moins autant d'épanouissement que de souffrance chez les membres des collectifs qu'on a étudiés. Parce que participer à ce type d'engagement, ça permet de développer évidemment certains savoirs, certains savoir-faire, ça permet d'élargir les horizons, ça permet aussi des formes de reconnaissance nationale qui comptent, qui sont importants. Et du coup, il faut aussi prendre en compte ces rétributions du militantisme, sinon on ne peut pas comprendre pourquoi, malgré tout, des habitants continuent malgré tout à se mobiliser dans les quartiers populaires. Du coup, je vais passer un peu rapidement sur les effets sur l'action publique. Donc, c'est pas très facile à documenter ces questions-là, mais il nous semble quand même, avec un peu de recul maintenant, qu'on peut dire que les effets sur l'action publique sont pas majeurs, que la politique, enfin que la lutte contre les discriminations, ça reste en France une politique en mode mineur. C'est pas du tout clair que ces mobilisations aient permis d'inscrire sur l'agenda politique local la cause des discriminations. Et en même temps, je pense que c'est très important de ne pas regarder uniquement la mise à l'agenda politique local, mais de considérer aussi des effets plus procéduraux, plus diffus. Et je pense que ça contribue quand même à élargir un peu les systèmes d'action publique. Donc, je prends juste un tout petit exemple à Vaux-en-Velin. Un des jeunes du collectif Policité s'est retrouvé coopté à cause de son engagement au sein de son conseil de quartier. Il est devenu référent sécurité. Et à ce titre-là, il a été intégré dans le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de sa commune. Bon, vous me direz, c'est pas des lieux où les choses se décident. Je pense que vous aurez raison. Donc, il y a quand même des limites évidentes. Mais ce qu'on observe aussi, c'est des effets par ricochet un peu sur d'autres territoires. Par exemple, c'est ce que montre notamment la trajectoire de Nagy, l'animateur du centre social qui devient maire adjoint à Pessac. Donc là, ça diffuse sur d'autres territoires. C'était sans doute pas l'ambition qu'avaient au départ les engagés de Lormont, mais voilà. Ou dans le cas de Policité, par exemple, l'idée de la conférence de consensus, il y avait deux gendarmes qui avaient été désignés volontaires par leur chef pour des gendarmes de Lyon. En plus, ils disaient, mais nous, en territoire rural, ils sont vraiment venus à reculons. Ils étaient clairs là-dessus. Et puis, ça leur a beaucoup parlé. Ils ont vu une énorme plus-value. Et en décembre, là, ils ont monté leur propre conférence de consensus. Et je pense que c'est quand même une des premières fois en France où il y a un engagement d'acteurs de la sécurité à débattre des problèmes locaux avec les citoyens et un engagement à mettre en œuvre les actions qui ont été votées par les professionnels et les habitants et à faire l'évaluation conjointe, donc ce sera dans un an, avec les habitants. Donc on peut considérer quand même que malgré tout, c'est pas non plus totalement négligeable. Du coup, je vais laisser Samia conclure.
Alors, une conclusion peut-être pas une vraie conclusion, mais puisque j'ai été invitée à prendre la parole, je me suis dit ça me donne l'occasion en fait de parler en qualité de professionnelle des difficultés. Je pourrais vous parler vraiment de l'aventure inspirante qu'on vit avec Policité et de tout ce que ça peut apporter à la fois aux professionnels que je suis et aux jeunes, mais j'ai plutôt envie de prendre le petit temps qui me reste pour parler des difficultés qu'en tant que professionnel on rencontre quand on mène ce type de projet. Alors, une des difficultés, c'est le problème de gérer plusieurs tensions. D'abord sur la question des mobilisations, puisque ce matin, comme l'a dit Julien, et surtout avec tout le travail qu'on fait avec Hélène sur la question de la démocratie participative, parce que c'est quand même une experte dans ce domaine-là, et sur le pouvoir d'agir, c'est la question des trois phases. Donc quand on mobilise et qu'on travaille dans un centre social, on mobilise des groupes de jeunes. Mais combien de jeunes pour ce type de projet, par exemple, un truc aussi pragmatique que ça? Moi, nous avons décidé de travailler avec une quinzaine de jeunes. Là, il fallait gérer le fait que c'est un nombre trop restreint au regard du nombre de jeunes qui existent sur le territoire et du professionnel que je suis qui doit faire entrer un certain nombre de PS pour parler de façon aussi... voilà, ça, c'est une réalité. Hein, voilà. Il faut faire des PS, donc il faut qu'il y ait des gamins qui s'inscrivent et travailler sur la question de la mobilisation, surtout si on veut respecter le processus de formation qui suit après la mobilisation. Il y a la formation, on ne peut pas former
une cinquantaine de jeunes comme on pourrait travailler sur une quinzaine. Bon. Là, pour le coup, on a été quand même, enfin, ça n'a pas été simple, mais on a été suivi, on a été soutenu, et donc on a travaillé sur, à partir de, enfin, avec 15 jeunes, sur la question de la formation. Alors, la formation, c'est aussi compliqué, parce que là, on avait la chance de pouvoir travailler avec des chercheurs. Et moi, j'invite tous mes collègues des centres sociaux à mettre en place des collaborations avec les chercheurs pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça crée une légitimité que nous n'avons pas, c'est-à-dire que nous sommes souvent, nous, professionnels, taxés, en fait, de gens qui fonctionnent avec leurs tripes, avec leur cœur, de militants. Et j'entendais une dame dire « mais je préfère qu'on me nomme comme militante plutôt que comme bénévole », elle a raison, et moi, je suis complètement OK avec ça, sauf qu'en France, c'est pas encore bien vu, enfin, c'est même plutôt mal vu, un professionnel qui est un militant à la fois. Donc, collaborer avec un chercheur, ça permet, en fait, d'arriver à objectiver des problématiques et à les rendre légitimes au regard des représentants institutionnels. Donc là, on est quand même... Enfin, on peut éviter l'écueil de la taxation du « c'est un militant politique, il va faire de la manipulation, il va embarquer les jeunes dans je ne sais quoi, etc. » Le second avantage à travailler avec des chercheurs, c'était aussi, dans le cadre de la formation, la mise en distance avec une problématique quand même qui touche sacrément aux tripes. Enfin, pour les jeunes, travailler sur les questions de police, de rapport police-population, c'est pas simple du tout. Et là, c'est intéressant d'avoir aux côtés des professionnels, des chercheurs qui vont arriver par leur formation et par l'accompagnement qu'ils vont faire à nos côtés avec le groupe, arriver à distancier, arriver à être plutôt plus dans la raison que dans l'émotion, quoi. Bon, ça, c'est un second point qui me paraît être super important. Et enfin, un troisième point, c'est on est écouté. On n'est pas du tout perçu de la même façon quand on travaille avec des chercheurs, quoi. Enfin, moi, il suffit que je dise, Policité, c'est une recherche-action participative. On travaille avec des chercheurs, sociologues de l'ENTPE, et là, les gens ont les yeux qui brillent, quoi. Enfin, voilà, c'est bien, c'est chic, c'est fun, c'est classe, c'est intelligent, forcément. Voilà, comme si tout venait des chercheurs. Mais en fait, eux, ils analysent, ils nous aident à prendre de la distance. Mais la vraie matière, c'est quand même nous, quoi, je veux dire. C'est nous sur le terrain et c'est les premiers concernés. Une autre difficulté que j'ai rencontré, c'est la formation des jeunes. Pourquoi ? Parce que quand ils sont formés, après, en fait, ils nous remettent en question dans notre rapport au job dans un sentiment de pouvoir quand même qu'on a, parce qu'il faut se l'avouer, hein, on est aussi des gens qui aiment bien le pouvoir, nous les pros, avec nos publics. Et là, on les a formés, donc ils sont capables de dire « Attendez, non, vous ne pouvez pas prendre des décisions sans nous. » Hein. Donc, en fait, on met en place un système de démocratie délibérative, on y croit à fond, on est engagé, mais quand ça remet en cause un peu nos pratiques, ça fait chier quand même. Ça nous embête, ça nous bouscule, et du coup, ça nous met en difficulté. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on doit... moi, j'ai dû beaucoup travailler, en tout cas. Accepter, il y a un philosophe arabe qui dit, Omar Khayyam, qui dit « Je lui ai appris à viser, sa première flèche m'était destinée ». C'est un peu le sentiment que j'ai parfois, c'est-à-dire je me dis « mince, je voulais les embarquer dans cette direction », puis finalement, comme on est en démocratie, comme j'ai dit qu'on était en démocratie, qu'il fallait discuter, qu'il fallait éventuellement voter si on n'arrivait pas à trouver un consensus, parfois, on est un peu minoritaire, nous, dans les choix stratégiques. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Donc le problème vient de plusieurs niveaux différents, à la fois pour le professionnel que je suis, à la fois en lien avec le public. Et cette idée que c'est des gens intelligents, capables de faire, donc capables d'être formés, à la fois avec les représentants institutionnels, c'est-à-dire qu'on est pris un peu en étau et on doit jouer avec cette carte-là parce que nous avons également besoin de ces représentants institutionnels à nos côtés et à la fois avec soi-même, avec sa propre formation, avec ses propres sentiments, avec son propre vécu et puis avec toutes les zones d'ombre qui font partie de ce que nous sommes. Voilà, elle m'a dit une minute, j'ai fini.